pour ce soir, donc il n'y a pas de conférence. J'espère que le travail dans les groupes se passe bien et que vous avez plein de questions. Donc là, on a une heure pour répondre à vos questions et voilà, on est souple au niveau temps. Voilà. Et donc, je dis déjà un grand merci aux frères Marie-Laurent, je confonds toujours les noms. Parce qu'il sera obligé de partir tout de suite à la fin de cette séance pour prendre son train. Donc si jamais on sera pris par le temps, déjà on le remercie d'être venu et d'avoir collaboré à cette semaine. Merci beaucoup. Alors voilà, les questions sont ouvertes. S'il y en a de vous qui ont des questions, ils peuvent y aller.
Pour aider à ce que les questions viennent, donc dans les ateliers, dans les carrefours, etc., dans les échanges, il y a sans doute des choses qui sont remontées, qui peuvent intéresser tout le monde. Donc, basez-vous déjà peut-être sur les échanges que vous avez eus dans les ateliers. Ça va aider à amorcer un dialogue certainement intéressant. Hein.
Pour vous laisser du temps, moi j'aurais tout de suite une question aux frères. Est-ce que vous avez parlé des procès de canonisation de Thérèse, donc c'est tout ça, c'est en espagnol. Est-ce qu'il existe déjà des éditions de certains aspects de ces procès, ou est-ce que c'est prévu, parce qu'apparemment c'est une mine qui serait bien à faire connaître à ceux qui ne parlent pas espagnol?
Alors, en fait, le problème, non, il n'existe rien. Et c'est difficile parce que, bon, je vous ai dit, hein, la masse de procès est absolument gigantesque. Et en même temps, je ne vous cache pas que c'est un peu, bon, quand vous êtes passionné, le soir avant de vous endormir, vous en lisez quelques pages. Mais il y a une grosse gang qui entoure, si vous voulez, les trésors. Donc c'est très, très fastidieux. Et donc, à traduire, vous imaginez, 30 fois 600, je ne sais pas combien ça fait de pages, mais 18 000 pages, c'est ça ? Alors faire la sélection dans 18 000 pages, sachant que le genre littéraire du procès de canonisation de la fin du XVIe siècle, c'est franchement ardu, quoi. Hein. Et donc, c'est difficile. Non, si vous voulez avoir accès à ce genre de documents, il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre un peu à lire l'espagnol. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Hein. Vous ne seriez pas le premier à le faire. Si vous êtes motivé et intéressé, vous prenez ce que vous avez envie de comprendre, vous prenez ça, une grammaire espagnol, bon, c'est bien, c'est à peu près la grammaire française, et un dictionnaire, et en avant. Vous verrez, au bout de quelques semaines, déjà, vous êtes tous les soirs une demi-heure avant de vous coucher.
En fait, moi, j'ai du mal un peu de comprendre qu'est-ce que c'est la contemplation chez Thérèse. Je ne sais pas, en fait, expliquer, comprendre même le paragraphe où elle explique ça dans le schéma de la perfection. Donc, si on pourrait avoir des éclaircissements au-dessus.
Merci. Je vais dire que quelques prises et je laisse après la parole aux autres. Donc, c'est vrai que la contemplation chez Thérèse, ce n'est pas la contemplation chez Ignace de Loyola, par exemple. Et donc, elle montre différentes formes de prière et qu'on peut partager un peu en deux étapes. Les premières demeures, juste les trois premières demeures où on voit vraiment l'homme qui fait des efforts à se recueillir, à méditer, à chercher le contact avec le Christ dans l'Évangile. Et à partir des quatrièmes demeures, elle dit que c'est le domaine ce qu'elle nomme le surnaturel, le domaine que Dieu se réserve, où donc Dieu va intervenir dans la vie et dans la prière de la personne, et il fera des choses que l'homme ne pourra pas faire. Donc le domaine que Dieu se réserve. Et donc la contemplation surnaturelle va se situer dans ce deuxième domaine qui commence donc avec les quatrièmes demeures. C'est donc un don de Dieu où Dieu communique sa grâce de différentes façons. Donc après, il y a plein de formes différentes de prières. Et donc chez Thérèse d'Avila, la contemplation renvoie donc vraiment à une action de Dieu dans la prière du priant. Voilà, c'est juste un aspect. Peut-être le frère veut rajouter quelque chose.
Je peux que confirmer. Quand Thérèse dit contemplation, c'est toujours contemplation surnaturelle. Et elle, la définition qu'elle donne du surnaturel, donc c'est au début de la relation 5, c'est tout ce que je ne peux pas me procurer par moi-même, donc sous-entendu, tout ce qu'il n'y a que Dieu qui peut me donner. Alors après, on peut passer, mais Thérèse, elle n'a pas une théologie des dons du Saint-Esprit qui s'est développée au siècle suivant, au XVIIe siècle. Et donc on peut, là, c'est ce que fait Marie-Eugène, développer, et Marie-Eugène, là, il s'intègre complètement dans une tradition hein, d'études carmélitaines avec les Salmantin Jetses et tout ça, c'est le XVIIe siècle, qui identifie cette action de Dieu, en fait, c'est l'oraison, le recueillement, donc activité théologale, hein, le cœur du recueillement, c'est quoi, en fait, c'est l'activité théologale, croire pour aimer, mais ressaisi sous la motion des dons du Saint-Esprit, donc en particulier du don de sagesse.
Bon, après, c'est vrai, la grande difficulté qui se pose, c'est de savoir reconnaître quand Dieu agit dans la prière et de savoir comment s'adapter à lui. Qu'est-ce que je dois faire après en réponse quand Dieu intervient pour qu'il puisse agir, pour que je ne bloque pas son action.
Voilà. Moi, il y a une question que je me pose, malgré toute la... C'est une question d'un béotien hein, qui ne connaît pas beaucoup Thérèse d'Avila. Mais c'est le problème, malgré toute la grandeur spirituelle de Thérèse d'Avila, de la place... de la liturgie, de la parole de Dieu et des sacrements dans la pensée, enfin dans la spiritualité de Sainte Thérèse. C'est des choses qui étaient vraiment centrales dans la spiritualité des pères de l'Église, dans le monachisme, dans toute la spiritualité de l'Église indivise, et qui ont été assez perdues, enfin, avec la devotio moderna, tout ça, parfois dans l'Occident latin. Et alors, quel est le lien entre Thérèse d'Avila et la tradition de l'Église indivise, quoi, parce que j'ai pas l'impression de retrouver ces choses, au moins que ce soit vraiment central. Alors peut-être c'est dû dans l'Occident latin, c'est dû au fait que la Bible était plus accessible, on l'a vu que c'était le cas pour Thérèse. Mais quelle est la place de Thérèse, le lien avec cette tradition de l'Église, qui est la tradition de toute l'Église indivise?
Donc c'est clair que Thérèse n'a pas tenu dans ses mains une Bible complète, du moins en espagnol, peut-être en latin, mais elle a quand même vraiment accès à l'Écriture sainte, justement à travers la liturgie, donc à travers la tradition vivante de l'Église. Bien sûr, les psaumes, prier quotidiennement dans la liturgie des heures, mais aussi tout ce qui est lu dans la parole proclamée. Et par exemple, je pense à un signe de la façon dont Thérèse est plongée dans la vie de l'Église, c'est que le temps de Thérèse, la chronologie, c'est le calendrier liturgique. La façon dont elle date ses lettres, dont elle situe dans le temps les différents événements des fondations, des grâces qu'elle reçoit, c'est généralement, habituellement, des fêtes liturgiques. Donc ça dit de façon très concrète, symbolique aussi, comment l'expérience très personnelle de Thérèse, et c'est vrai qu'il y a une emphase qui est mise avec elle sur le sujet, sur la liberté, mais c'est une expérience qui se situe bien au sein de l'Église. Et je pense qu'elle est vraiment tout à fait dans la tradition indivise. De toute la vie de l'Église. Et en tout cas, ce fil chronologique, ça en est un signe éloquent. Thérèse situe sa propre histoire dans l'histoire de l'Église de son temps, enfin le calendrier liturgique.
Moi, je voudrais rajouter beaucoup d'événements importants de sa propre vie personnelle et des grâces qu'elle a reçues, même des grâces extraordinaires, sont liées à la vie liturgique. Je prends un seul exemple, c'est la grâce du mariage spirituel, c'est après la communion. Et donc, il y a beaucoup de grâces extraordinaires qui sont pour elle liées à la vie liturgique. Et donc, elle ne sépare pas de cette vie. Pour elle, ça fait un tout. C'est nous qui, parfois, nous séparons les choses, parce que l'homme moderne, aujourd'hui, on distingue beaucoup de choses et parfois on sépare. Ce qui, pour elle, était vraiment une unité vivante. Voilà. Je ferai vous répondre aussi.
Mais, par exemple, les exclamations, elles sont toutes écrites après la communion eucharistique. Comment ? Ah, dans son enseignement, elle fait allusion à la liturgie en disant qu'elle veut jamais, elle voudrait pas se séparer, contredire, c'est pas le mot exactement, une des cérémonies de l'Église. C'est-à-dire qu'elle est très attentive et elle écrit ça à la liturgie. Ça c'est un point. Et par rapport à l'écriture, alors l'écriture est très présente. On voulait d'ailleurs faire une conférence sur l'écriture et Thérèse. Mais par exemple, dans la relation, je me souviens plus, une relation où elle, et dans les pensées sur l'amour de Dieu, justement, elle trouve dans l'écriture l'assurance de sa vie spirituelle. Elle l'écrit et c'est vraiment développé dans plusieurs écrits. Donc en fait, bien sûr, il y a une insistance sur l'oraison, donc on peut avoir l'impression que la liturgie, l'écriture sont un peu noyées. En fait, non. Dans ces écrits même, on trouve ça.
En fait, le problème, c'est... Il faut reconnaître le fait, je crois qu'il ne faut pas tortiller, qu'effectivement dans ses écrits, elle parle très peu de la liturgie, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. La chose, c'est que, alors, il faut prendre ce que j'essaie de vous dire lundi, c'est que Thérèse, il faut la prendre au-delà de ses écrits, quoi. Il ne faut pas isoler, prendre uniquement les écrits, parce que sa grâce, c'est d'abord ce qu'elle a vécu. Or, ce qu'elle a vécu n'est pas transmis uniquement par ses écrits. Donc, sur la liturgie, c'est un très bon exemple. Alors, pourquoi elle n'en parle pas dans ses écrits? C'est parce que Thérèse, c'est une de ses particularités d'écriture, elle ne parle pas des choses qui sont évidentes pour la personne à laquelle elle s'adresse. Quand elle écrit à ses sœurs carmélites, qui ont une vie liturgique intense, qui donc ont la messe évidemment tous les jours, où l'Eucharistie, elles vivent la vie du Carmel, qui est pour l'époque considérée comme un ordre très eucharistique. Quand les sœurs espagnoles arrivent en France, une des choses qui frappe le plus les gens, c'est qu'elles sont hyper eucharistiques, avec, entre autres, c'est marqué dans leur constitution qu'il faut qu'elles communient deux fois par semaine, ce qui est énorme pour l'époque. Et qu'il était courant dans les Carmels du temps de Thérèse que des sœurs qui communiaient tous les jours, ce qui était exceptionnel. Elle-même, Thérèse, depuis les années 1550, d'à peu près sa seconde conversion, elle communie tous les jours, ce qui est vraiment, pour les gens, c'était incroyable. Un des aspects incroyables chez Thérèse, c'est qu'elle communiait tous les jours. Donc cette place de l'Eucharistie, avec beaucoup de traditions, Thérèse faisait en sorte, alors ça, elle n'en parle pas, parce que c'est évident pour ses lecteurs carmélites qui sont au courant de ça. Mais, par exemple, donc la célébration de l'Eucharistie, elle faisait en sorte que toutes les sœurs soient là, ce qui n'était pas une évidence à cette époque-là, que toutes les sœurs soient là, aient les moyens de suivre et de répondre, donc elle se procurait des journaux qui étaient latin et espagnol, de façon à ce que les sœurs puissent non seulement répondre, mais comprendre ce qu'elles répondaient. Elle soignait énormément la liturgie de la messe, alors entre autres avec ce petit truc que continuent à faire les sœurs en Espagne, c'est de mettre quelques gouttes de fleurs d'oranger dans l'eau du lavabo, pas pour plaire à celui qui célèbre. Une fois justement, il y a un des pères qui célèbre alors que Thérèse est dans le Carmel, en disant « Écoutez, là c'est trop, pour moi j'ai pas besoin de fleurs d'oranger. » Et Thérèse lui répond « Écoutez mon père, c'est pas du tout pour vous. » Mais c'est pour que quand le Christ, le Seigneur, viendra dans vos mains au moment de la consécration, il ait des bonnes odeurs. Avec aussi, dans cette première génération, des octaves du Saint-Sacrement, avec exposition du Saint-Sacrement tous les jours et tout. C'est quelque chose qui est très original pour l'époque. Hein. Voilà. Donc là, le problème, c'est la perspective. Pour comprendre Thérèse dans son ensemble, il faut dépasser le strict cadre des œuvres, parce que quand elle écrit, elle n'écrit jamais les choses qui sont évidentes, qu'elle sait que les carmélites à qui elle s'adresse, elles le savent déjà. Bon. Et la deuxième chose, c'est sur l'écriture. Il y a une source qu'il faut mentionner, qui est l'évangile du XVIe siècle en Espagne. C'est la vie du Christ par Ludolphe Le Chartreux, qui était le livre préféré de Thérèse, qu'elle avait toujours dans son ermitage, et qui était en fait, c'est donc écrit par un Chartreux, je crois, du XVe siècle, à Ludolphe de Saxe, c'est un espèce d'évangile, je ne sais plus comment on appelle ça, diatessaron, enfin vous voyez, voilà. Alors évidemment traduit en espagnol, et qui très 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 largement cite l'écriture. C'est quasiment une mise bout à bout de citations de l'écriture. Et en fait, c'est cette vie du Christ, qui n'a jamais été mise à l'index, qui a servi d'évangile, et en fait plus largement d'écriture, parce que non seulement il citait très largement l'évangile, mais aussi l'Ancien Testament, pour éclairer dans une perspective, comment on appelle ça, pas christologique, voilà, typologique, dans une perspective typologique. Donc c'était une mine d'écriture pour ça. Saint Ignace, c'est un des deux livres avec lesquels il s'est converti, cette Vita Christi.
Et il faut rajouter que pour les fondations, une des motivations essentielles des fondations, c'est que l'Eucharistie soit célébrée. Justement, en pleine séparation, en plein schisme luthérien, il dit au moins là, le Seigneur sera adoré. Et là, elle estimait qu'elle se trompait d'un point de vue canonique, mais elle croyait sincèrement que quand une messe était célébrée, ne serait-ce que dans une baraque complètement délabrée qui allait devenir le couvent, elle pensait que la fondation était faite à cause de l'Eucharistie. Ça, c'est très fort chez elle.
Oui, excusez-moi. Tout ça est vrai. C'est évident qu'elle s'est nourrie de l'écriture, des sacrements, tout ça. Il reste que dans son enseignement, il n'y a pas de commentaire biblique suivi. Il y a peu de place quand même pour la vie liturgique et sacramentaire dans ses enseignements. Donc, est-ce que on peut pas dire quelque chose aussi en lien avec l'époque dans laquelle elle vivait, l'émergence du sujet? Parce que ce reproche que mentionne Yvon, il a été fait au début du XXe dans le cadre du renouveau patristique et liturgique. Et on le trouve sous la plume de très grands théologiens du XXe siècle. Donc on ne peut pas simplement dire ce qu'elle a vécu n'est pas tout à fait est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire. À mon avis, il y a quand même une petite réflexion à mener pour arriver à situer son enseignement, un peu comme celui de Saint Ignace, me semble-t-il d'ailleurs, contemporain, dans l'évolution de, là je me tourne peut-être vers Bernard Mainviel, de l'histoire de la spiritualité, non?
Moi, j'aurais envie aussi de... Ça nous aide à ne pas tomber dans un travers. C'est sûr, Thérèse parle beaucoup de l'oraison. Et nous avons peut-être aussi la tendance à identifier l'oraison à un certain exercice que nous faisons 2 heures par jour à la chapelle. En fait, l'oraison pour Thérèse n'est pas simplement ce temps à la chapelle où on essaie de prier comme on peut. Mais c'est l'oraison, c'est vraiment ce que dit le Père Marie-Eugène, hein, tout mouvement de la grâce. Et donc l'oraison, finalement, ça englobe la vie tout entière. Et il y a beaucoup de grâces qu'elle a reçues quand elle n'était justement pas en oraison, qui lui sont tombées dessus, même dans sa vie publique, en présence d'autres personnes. Voilà, ça c'est un aspect de la question. Voilà, je laisse la parole.
Alors, effectivement, ceux qui se sont exprimés autour de la table, le père François Agis, ont mis en valeur ce qui distingue peut-être ou qui fait que Thérèse se comporte mieux que les autres, ou en tout cas a une vie liturgique particulièrement forte. Il reste, c'est vrai, que l'époque vit un certain nombre de choses plutôt pauvres. Il y a des raisons à ça. Je vous donne un exemple. Je crois que on a dit ça de François de Sales, j'en suis pas exactement sûr, mais on a montré comme exemple de piété de François de Sales, c'est qu'il participait à la messe quand il célébrait pas, il participait à la messe en disant le rosaire, enfin ou en disant des... Donc c'est dire que on est dans des périodes, si vous voulez, d'appauvrissement du sens liturgique. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont abouti à ça, le fait que la langue liturgique est depuis plusieurs siècles complètement opaque à la grande majorité des baptisés qui participent à l'Eucharistie. Ça, c'est un élément. Le fait, vous voyez, que 1559, la série des interdictions, et là, l'Inquisition est très, très sévère là-dessus, la série des interdits portés sur un certain nombre de livres, tout ça, évidemment, crée de plus en plus le fossé entre une action... sacré, enfin, où on pense que le sacré, d'une certaine façon, doit être tellement vénéré et tellement mis proche de la transcendance que du coup, ça s'éloigne de l'homme. Je caricature en disant ça, hein. Mais c'est vrai qu'il y a, on est un peu 16e, 17e, 18e. Dans la fin et aussi le paroxysme des conséquences d'un phénomène malheureux à ce niveau-là. Il y a, c'est vrai, au XVIe siècle, beaucoup de très très belles choses par rapport au sujet et à la vie spirituelle du sujet, et en même temps, c'est vrai qu'on perd beaucoup de choses au niveau liturgique, par exemple. On peut se poser une question quand même. Pour moi, c'est une interrogation. Comment se fait-il que la moitié de l'Europe a accepté du jour au lendemain de se priver de l'Eucharistie sans que ça gêne? Tous les pays devenus luthériens et calvinistes, ça les a pas gênés outre mesure. Alors, on peut dire les luthériens, il y avait quand même une forme d'Eucharistie, la doctrine de Luther. Non, mais la doctrine de Luther sur l'Eucharistie n'est pas... Quoi? La scène, la scène calviniste. Mais d'accord, mais la scène de chez Calvin, la scène chez Zwingli, excuse-moi, mais enfin, il y a une rupture extrêmement forte. Quoi? Non, mais prends simplement Calvin. Calvin, c'est par exemple, c'est la Suisse, c'est aussi tous les Pays-Bas. Les Pays-Bas vont adhérer à la doctrine de Calvin. Tu vas avoir des pays comme la Saxe aussi qui vont adhérer, donc une partie du nord de l'Europe. Donc quand même, enfin, ça pose une question. Le fait que Il y a quand même une réduction liturgique qui ne pose pas de problème, tu vois. Attention, comprenons-nous bien. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, mais ce que je veux dire, c'est comment se fait-il. C'est aussi le fait, si tu veux, le succès de la réforme protestante et le fait que la réforme protestante ait pu comme ça élaguer terriblement la vie liturgique de l'Occident chrétien sans que ça soit un problème d'irriment, tu vois, sans que vraiment ça ne bloque complètement. Pour le dire autrement, la réforme protestante, à mon sens, n'aurait jamais pu marcher dans les pays orthodoxes, où la liturgie est tellement prégnante dans la vie, tu vois. Il y a des aspects, en tout cas, de la réforme protestante, au moins au niveau de l'impact dans la manière de célébrer le Seigneur, qui n'aurait cette espèce d'appauvrissement, tu vois, de perte de beaucoup de choses. Ça n'aurait pas pu comme ça se produire, je pense, dans des pays de tradition liturgique beaucoup plus riche, intégrée, tu vois. Mais on peut avoir des avis divergents. Pendant que le micro arrive jusqu'à Francisco, je vous signale, il y a un article précisément sur Thérèse et la liturgie d'un des frères de Marie-Laurent, le père Stéphane Marie, avait produit un article intéressant, je l'ai, je peux vous le passer pour ceux qui le veulent. Je crois que c'était... peut-être dans la Maison Dieu, non, c'était... Enfin, j'ai en tout cas ça. Joseph Baudry aussi, enfin... Il y a toute une bibliographie là-dessus. C'est dire que c'est une bonne question, si vous voulez, et qu'il y a pas mal de choses dessus.
En fait, par rapport à les enseignements liturgiques et bibliques de Sainte Thérèse, en fait, elle consacre 20 chapitres du schéma de la perfection pour expliquer le pater, donc à la fois parole de Dieu, et à la fois aussi aux raisons liturgiques, parce que c'est la raison dominicale. Et en fait, quand elle explique « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de séjour », c'est un commentaire eucharistique. En fait, elle lit ça à l'Eucharistie. Donc, c'est un chapitre tout en exprimant sa pensée par rapport à l'Eucharistie. Donc ça, je pense que ce sont des grands exemples par rapport à ses enseignements liturgiques et bibliques aussi.
Pour ma part, effectivement, j'ai appris énormément de choses parce que je connaissais rien sur Sainte Thérèse et j'ai encore énormément à apprendre. Deux points peut-être où j'aimerais avoir un éclaircissement par rapport à votre présentation, Madame Péricot. Au point numéro 6, la sensibilité et l'affectivité. J'ai pas noté l'entière, toute la citation que vous avez donnée. J'ai juste noté cela, alors peut-être que j'ai mal interprété. Il m'a suffi de fixer les yeux sur l'image qui est dans mon âme, et un petit peu plus loin, tout me dégoûte. Et, alors c'est sûrement partiel, et j'aurais aimé avoir soit la citation en entier, soit peut-être un éclairage supplémentaire sur, parce que hier, j'ai eu la joie de voir un film sur Sainte Thérèse aussi. Et donc la partie 1-2 du film, sur la conversion de Sainte Thérèse, qui était très très bien. Et là aussi, elle dit, en gros, je ne veux plus parler aux hommes, mais qu'aux anges. Et ça m'a fait écho avec ce que vous avez dit hier, sur tout me dégoûte. Je souhaitais peut-être, bien sûr que je ne veux pas déformer les propos de Sainte Thérèse, mais comprenez que pour un béotien ou un néophyte, comme moi aussi, eh bien, je me pose la question... Voilà, l'articulation humanité, divinité, quand on dit que tout me dégoûte et que je veux parler plus qu'aux anges.
Je crois qu'il ne faut pas, il ne faut pas exagérer, donner une importance extrême à cette expression, parce que hier, comme je vous ai dit, je n'ai donné au fond qu'un plan très détaillé de tous les points que j'ai donnés, tellement il y aurait à approfondir. Et en particulier, la seule chose que j'ai voulu mettre en valeur, c'est qu'il y a chez Sainte Thérèse, tout au long de sa vie, une purification de sa sensibilité, Et cette purification, comme tout le reste, elle est faite pour la plus grande partie par l'action de Dieu. C'est pas ce qu'elle arrive à faire elle-même. Alors, c'est uniquement dans ce sens que j'ai voulu souligner et vous lire le passage que j'ai lu sur la beauté du Christ. Mais quant à dire « tout me dégoûte », il n'y a qu'à regarder les fondations de Sainte Thérèse d'Avila et comment elle était une femme d'action extraordinaire et comment elle savait apprécier tout ce qu'il fallait apprécier dans le monde et dans la vie du monde. Et dans ses relations aussi, c'est pas du tout quelqu'un qui ne parle qu'à Dieu et qui méprise, qui ne parle plus aux hommes. Selon l'autre citation que vous donnez, c'est simplement la primauté donnée à Dieu qui va donner justement un sens à tout le reste et une signification à tout le reste. Et la sensibilité et l'affectivité de Thérèse sont au contraire enrichies. Pas du tout nier, supprimer et tout ça. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de mesure. Là, comme je n'avais pas le temps de traiter tout ce thème-là, qui demanderait plusieurs heures, c'est pour ça que j'ai donné cette citation, mais il ne faut pas la prendre à l'extrême. Thérèse est une femme d'action très équilibrée. Voilà. Je pense que ça répond à votre question.
Je vais peut-être juste ajouter un exemple très parlant. Quand elle est attelée de chez une dame, la dame lui montre tous les trésors qu'elle a. Et donc Thérèse regarde ça, elle est ébahie par les bijoux et tout ça. Mais voilà, c'est tout, parce que ça ne l'intéresse pas outre mesure. Mais plus tard, quand elle fait ses fondations, elle dit, elle voit beaucoup plus la valeur de ces choses, parce qu'elle voit la valeur que ces choses ont, même par exemple pour servir l'œuvre de Dieu, qui aurait... l'utilité des choses dans le plan de Dieu. Voilà. Elle le dit elle-même, donc ça c'est un exemple frappant.
J'ai une question. Quand Thérèse parle de sa conversion, elle dit qu'à partir de ce moment, elle dépose toute sa confiance en Dieu, en sa majesté, et elle avait du tort avant de ne pas le faire. Et on voit aussi que Thérèse insiste beaucoup sur la détermination. Est-ce qu'on pourrait expliciter davantage l'articulation entre la détermination déterminée et la confiance absolue en Dieu?
C'est une très bonne question, parce que la place de la confiance, cette confiance absolue, je dirais que c'est déjà un don, c'est quelque chose qu'elle a reçu, qu'elle reçoit. Et on pourrait peut-être dire la détermination, c'est une réponse d'amour à cette confiance qui est reçue de par Dieu. Et elle a une si grande confiance dans le Seigneur que elle se tourne tout entière vers la réalisation de cette volonté qui la dépasse. Et donc c'est évidemment très lié. Je dirais qu'il y a une réponse d'amour qui est son attitude par rapport à la grâce qu'elle reçoit de recevoir cette confirmation, cette certitude qu'elle est appelée et qu'elle a une mission dans l'Église. Et donc ça ne se traduit chez elle par de la détermination, pas de la détermination à accomplir la volonté de Dieu. La confiance, elle est reçue, je vois comme quelque chose qui est comme une grâce, quelque chose qui l'incline vers la réalisation du projet de Dieu.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors qu'elle est, en fait, elle est déterminée, elle se détermine à faire confiance?
Ben oui, comme une réponse, oui, comme quelque chose de... une conformité de sa volonté à une initiative de Dieu qui est première et qui la dépasse complètement. Parce que ce n'est pas une initiative qui provient d'elle-même, mais c'est pour ça que je parle de réponse d'amour. C'est une réponse déterminée à un appel.
Est-ce que la détermination déterminée, c'est déjà un effet de la grâce? Parce que pour moi, c'est plus une idée d'imaginisme.
Oui.
Pourquoi est-ce que tu dis que cette détermination déterminée, c'est un fruit de la grâce?
si elle le dit, parce que bon, j'ai effectivement il faut faire attention dans ce domaine pour ne pas tomber dans l'hérésie, sinon ça sent le bûcher. Mais parce que si on disait que cette détermination déterminée est un fruit strict de la volonté, ben on occulterait complètement cette grâce prévenante qui nous aide à faire ce pas aussi dont je parlais ce matin. Donc évidemment, sans la grâce du Seigneur, on n'aurait pas la possibilité de se déterminer effectivement. Néanmoins, j'insiste pour dire que de son point de vue, s'il n'y a jamais de réponse de l'homme, rien ne se passe, quoi. Il faut bien qu'il y ait une réponse à l'amour prévenant de Dieu.
C'est une question que j'ai. Justement, est-ce que ce n'est pas son expérience de la présence de Dieu en elle, de la présence d'immensité, avant qui justement permet de comprendre que la détermination déterminée, que l'engagement est une réponse à cet appel déjà qui est en elle?
Oui, je pense que cette expérience de la présence de Dieu en elle, évidemment, et puis après, durant toute la semaine, on a évoqué aussi ces grâces qu'elle reçoit, qui confirment sa certitude, l'incline à répondre. Et donc, dans sa réponse, il y a tout cet élan, cette générosité, cette détermination, évidemment, avec le secours de la grâce, qui font qu'elle a foncé en avant, hein.
Moi, je pense sur cette question, enfin, là, moi, je ne suis pas théologien hein, de ce point de vue-là. La réponse de Thérèse, il y a une des dimensions, c'est d'abord une réponse qui est très concrète. C'est soyez patient, attendez la grâce, implorez la grâce. Hein, et la grâce vous sera donnée, quoi. Demandez-la, vous demandez, vous recevrez. Hein, c'est ça, peut-être la détermination. Et ça, si vous demandez la grâce, c'est forcément que vous avez déjà été touché par la grâce, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc là, Thérèse, elle nous donne une leçon de patience et de persévérance. Et souvent, en fait, on met notre détermination déterminée, en fait, on en fait une lecture volontariste qui ne sait pas attendre la grâce.
Non, je rebondis sur vos propos. On parlait de la détermination. Comment comprendre cette liberté, parce qu'il y a donc une liberté de la détermination, mais plus elle demande la grâce de s'approcher de Dieu, enfin de voir Dieu, plus les épreuves humaines sont là. Donc elle est confrontée à ses propres limites, elle est confrontée aux limites humaines, et pourtant elle continue. Enfin, quelle est la place de la liberté dans cette persévérance, quoi, alors qu'elle est, sans arrêt mise à l'épreuve? Si ma question est...
Le problème, c'est que je ne comprends pas la question.
Excusez-moi. Voilà, non. Comment comprendre la place de la liberté? Parce qu'en fait, c'est une question qui regroupe les conférences de Mademoiselle Péricot et du Père Coulange sur la détermination, sur le dynamisme et la liberté, finalement, d'aller toujours de l'avant. Alors plus on voit qu'elle a cette liberté d'avancer, de voir Dieu, plus elle est freinée par les hommes. On voit dans les textes qu'on a pu lire, on voit l'obéissance qu'elle avait, et finalement elle obéissait coûte que coûte, même si elle ne comprenait pas toujours ce qui se passait, quoi. Non, je suis toujours pas... Oui, est-ce que sa liberté n'est pas freinée finalement par les limites humaines?
Peut-être on peut attendre la conférence de demain matin sur la liberté, qui vous donnera des éléments à cette question et qui clarifiera peut-être certains points. Parce que Thérèse, on voit qu'à mesure qu'elle avance vers Dieu, qu'effectivement elle devient de plus en plus libre. Et que les obstacles qu'on peut rencontrer extérieurement ne sont plus des obstacles, ou ils sont, je dirais pas contournés, mais elle a une liberté intérieure, même dans des situations où humainement on dirait elle n'est pas libre parce qu'elle est obligée de faire telle ou telle chose. Mais elle jouit d'une liberté intérieure de plus en plus grande. Mais peut-être attendons demain où vous aurez plusieurs éléments qui répondent à cette question.
Je voulais demander si, jusqu'à quel point la réforme luthérienne et le Concile de Trente ont eu un impact chez Thérèse.
La réforme luthérienne a eu un gros impact sur elle. Il y a eu un peu deux événements, et je crois que c'est dans les deux cas un père franciscain qui est à l'origine de ça. Il y a eu deux grandes intentions, ou plutôt deux chocs qui ont guidé pour une large part l'objectif que Thérèse a donné à la réforme. Le double choc, c'est d'abord, ces millions d'âmes qui se perdent aux Amériques, donc le fait qu'on découvre des populations considérables qui ne connaissent pas encore le Christ et qui risquent de se perdre. Donc ça, pour Thérèse, c'est vraiment un choc très fort. Puis le deuxième choc qu'elle a, c'est les protestants. Alors elle les appelle indistinctement les luthériens, quels qu'ils soient. Et pour elle, le fait que comme ça, d'anciens catholiques, enfin des gens qui étaient catholiques, ne le soient plus, c'est un deuxième choc, et donc elle va dire à ses sœurs, mais l'heure n'est pas venue pour nous de nous occuper de babioles, mais vraiment d'unir nos forces pour implorer, supplier le Seigneur pour tous ceux qui, sur le terrain, sont chargés d'annoncer la foi catholique, d'éclairer ceux qui risquent de s'égarer, etc. Donc, tu vois, la réforme protestante, j'allais dire, est omniprésente dans sa vie, et à partir du moment où elle va découvrir ce que c'est, omniprésente à titre d'intention de prière et plus que ça, de quelque chose qu'on porte, tu vois, à la fois dans la prière, mais dans tous les sacrifices qu'on offre pour cela, le fait qu'on accepte une vie pauvre, une vie avec beaucoup de gêne, pour ça. Alors maintenant, le Concile de Trente, ce qui est beau, c'est que Thérèse, tu vois, le Concile de Trente, 45-63, donc on est au milieu de la vie de Thérèse. Thérèse est anté-tridentine, je ne sais pas comment on dit pendant, et post-tridentine. Et quoi ? Simul-tridentine, voilà. Elle est anté-simul et post-tridentine. Alors c'est vrai au plan chronologique, mais c'est vrai aussi, je crois, au plan profond spirituel. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ceux, de celles qui ont préparé le Concile de Trente et surtout les fruits qu'ils vont avoir. Elle a été enseignée par le Concile de Trente aussi, comme n'importe quel fils et fille de l'Église qui reçoit le Concile. Et puis, elle va le mettre en œuvre aussi. Donc, tu vois, elle se situe un peu par rapport au Concile de Trente. Alors, il faudrait voir maintenant dans le détail. Ça a été le travail du père Jean-Marie Laurier. Sa thèse, c'était ça le cœur, montrer comment le lien entre Thérèse et le Concile de Trente, et notamment comment, à la fois dans sa vie et dans son enseignement, elle vérifie, j'allais dire expérimentalement, des points très importants de la doctrine de Trente, et notamment tout ce dont on a parlé à l'instant, les relations entre l'homme et Dieu, cette mystérieuse relation, comment comprendre que tout vient de Dieu, et je le reconnais comme tel, et c'est le fruit même d'une évolution spirituelle, celui de la deuxième conversion, je reconnais que tout me vient de Dieu, et en même temps, jamais mon implication personnelle n'étant sollicitée, tu vois. Donc c'est la part de Dieu est reconnue comme plénière, et en même temps, je découvre que je peux, je dois, je suis invité à donner ma détermination déterminée. Est-ce que ça répond un peu à ta question ?
Moi, c'est un petit peu une question de définition. Dans notre sous-groupe, quand on a réfléchi sur les textes sur vie mystique et théologie, une des personnes a dit « Mais de toute façon, moi, je ne suis pas un mystique. » Alors, j'avais envie de lui répondre « Mais est-ce que tout chrétien n'est pas un mystique ?» Et dans la conférence du frère Marie-Laurent, on a cru comprendre que ce que vivait Thérèse était pour chaque chrétien et qu'on était tous invités à vivre la même chose. Donc, dans quelle mesure on est appelé à la vie mystique, et alors comment la définir, et voilà.
Elle utilise une fois le mot théologie mystique pour dire qu'elle ne le comprend pas, l'expression, pour dire qu'elle ne la comprend pas. Non, alors oui, alors bon, sur ce thème-là, il y a un peu deux écoles. Bon, le Carmel, résolument, et c'est sûr que les professeurs qui sont dans cette arène ont vraiment une position, la vie mystique pour tous, hein, c'était le nom d'un colloque organisé par un certain nombre de personnes ici il y a quelques années. Avec ça, c'est que, ce que je crois que je voulais vaguement évoquer, je ne me souviens plus très bien, mais lundi, oui, on reçoit au baptême... on reçoit au baptême les vertus hein, infuses, théologales, cardinales infuses, et les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que la définition de la vie mystique ? C'est la vie sous la motion des dons du Saint-Esprit. La vie sous la motion des dons du Saint-Esprit peut prendre plein de formes qui ne sont pas nécessairement... On peut avoir une authentique vie mystique, à ce sens-là, sans avoir la contemplation surnaturelle. Contemplation surnaturelle, dans cette optique-là, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie de prière théologale, vie de prière, croire pour aimer, sous la motion du don de sagesse. Hein. Mais on peut tout à fait concevoir, et dans l'histoire, ça a pu se réaliser, une personne, des saints, hein, qui sont complètement... Donc voilà, c'est la définition même de la sainteté, la vie sous la motion des dons du Saint-Esprit, et qui, en même temps, n'ont jamais eu de contemplation surnaturelle. On peut au moins le concevoir, même si c'est clairement pas le cas le plus courant. Alors après, il faut voir qu'il y a un deuxième courant, mais là, je pense que je vais laisser la place à Bernard, qui est un meilleur historien que moi, qui appelle mystique voilà, un peu différemment. Mais bon, là, je vais être très approximatif parce que c'est pas mon courant, donc voilà, et qui un courant qui est en particulier défendu par un certain nombre de jésuites à la suite d'un jésuite de la fin du 19e, Poulain, Auguste Poulain, qui en fait limite à mystique les expériences extraordinaires au sens des visions, paroles extraordinaires et voilà. Et donc s'est greffé là-dessus tout un courant qui dit qu'en fait la mystique c'est pas pour le peuple, la généralité du peuple chrétien.
Bon, pendant que le micro arrive au père François Agis, le deuxième courant quand même finalement a été un peu battu en brèche et c'est pas seulement si vous voulez la frontière jésuite carme. Bon, d'abord les dominicains étaient aussi aux côtés des carmes dans cette affaire-là. Alors, et là aussi, c'est pas seulement parce que les jésuites étaient en face, c'est plus subtil que ça. Donc la ligne de partage n'est pas entre les ordres religieux. Beaucoup en fait de jésuites sont maintenant, on peut dire que si vous voulez, la très très grosse majorité des théologiens qui travaillent un peu sur les questions de vie spirituelle, tous sont d'accord que, enfin, à part quelques exceptions... C'est un combat, si vous voulez, c'est un combat terminé, enfin voilà, conclu au milieu des années 20 du XXe siècle, et ça s'est conclu sur la position qu'a exprimée Marie-Laurent.
En tout cas, je crois que la question, plutôt la réflexion de dire « moi je suis pas un mystique », c'est il y a une ambiguïté sur le mot mystique, voilà. Donc la mystique, le mot mystique vient d'être, la réalité vient d'être redite théologiquement, c'est la vie chrétienne, la vie baptismale, donc menée sous l'influence prépondérante de l'Esprit-Saint agissant par ses dons. Et le problème, c'est Poulain. C'est vrai que Poulain, au début du siècle, il a identifié la vie mystique au phénomène. Or, la vie mystique ne s'identifie pas aux phénomènes mystiques qui peuvent exister, bien sûr. Il n'y a qu'à voir chez Thérèse, c'est par tombereau. Hein. Bon. Et puis aujourd'hui, ça existe et demain, ça existera. Mais fondamentalement, ça vient d'une ambiguïté sur le mot mystique. Et je pense que la grande tâche et le point positif de la théologie spirituelle du XXe siècle, ça a été justement de séparer, de distinguer et de repréciser les choses. Et ça, c'est très important.
Sur ce sujet, c'est un petit peu comme la question d'Yvan tout à l'heure, ça serait intéressant aussi d'avoir un peu des, même si c'est quelquefois un peu, faut pas que ça devienne idéologique, mais quand même des grandes lignes à travers les siècles. Parce que derrière la position du père Poulain, qui d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, a été adoptée aussi par un certain nombre de carmes, donc la division était aussi à l'intérieur même du Carmel, sur cette question-là, mais en fait, il faut remonter à Fénelon et Bossuet. Et donc là... Le problème du quiétisme, et du coup, en réaction contre le quiétisme, qui lui était une vraie mystique, qu'on a tendance à réhabiliter aujourd'hui d'ailleurs, une réaction de type qu'on appellerait aujourd'hui plutôt rationaliste. C'est un peu la même chose qu'on a vu au temps de Sainte Thérèse, la réaction contre l'illuminisme par certains théologiens comme Melchior Cano. Alors, je ne sais pas si on veut continuer là-dessus, parce qu'après j'ai une toute autre question. Et si Bernard a le micro, et s'il veut. Puis après je poserai ma question.
Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça intéresse l'auditoire ou non ? Continue. Là, on est, si vous voulez, dans une question en soi qui m'intéresse, mais... C'est pour ça. C'est vous le critère, c'est pas moi. Donc, on peut passer directement à la question de Pierre.
Alors, moi, c'est une question à Marie-Laurent. Tu as parlé donc du fait que le grand-père de Thérèse était juif converti. Tu m'as dit l'autre jour que c'était maintenant un acquis. Moi, je me souviens encore dans les années 80, il y avait d'âpres débats à ce sujet. Donc, est-ce que tu peux dire un petit mot ? Et alors, j'ai une question plus précise, c'est que tu as dit que dans le milieu des convertis, il y avait un intérêt pour le recueillement personnel. Alors, j'ai pas bien saisi, tu as dit quelque chose comme par réaction au caractère un peu forcé des conversions, et là, je saisis pas bien le lien. Merci.
Alors, donc, oui, effectivement, le dernier grand acquis historique majeur, si vous voulez, dans la vie de Sainte Thérèse, le seul qui a vraiment eu depuis le dernier centenaire de 1982, c'est la confirmation de manière irréfutable des origines juives de Sainte Thérèse. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces origines, que Thérèse connaissait de manière évidente, ont été complètement oubliées après sa mort. Unanimement, au procès, tout le monde a oublié, n'en parle pas, et a priori parce qu'ils ont vraiment, ils ne savent pas. Vraiment, c'est pas parce que c'est caché, bon après je vais pas vous rentrer dans les discussions techniques, hein, mais c'est vraiment, ils répondent sincèrement qu'ils sont, parce qu'ils le savent pas, quoi. Ça a été complètement oublié. Et bon, donc au point que dans les années 1930, hein, le grand titre de Thérèse en Espagne, c'était la Santa de la Raza, la sainte de la race, c'était l'exemple même, bon c'est vraiment quelque chose qui me paraît curieux, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, de la pureté du sang espagnol, etc. Voilà, toute une nation se reconnaissait dans Thérèse la pure, la vraie espagnole. Et puis en 1947... un chercheur faisant des recherches dans les archives nationales à Simancas, pas loin de Valladolid, tombe par hasard sur un manuscrit qui en fait est les notes du procès, alors ce qu'on appelle en termes techniques le procès de noblesse, du père de Sainte Thérèse et de ses trois frères. Alors procès de noblesse, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui s'est mis spontanément en place dans l'Espagne du XVIe siècle pour permettre à des familles d'origine juive d'accéder au statut de noble et donc, en fait, de faire oublier leurs origines. En fait, c'était des procès qui étaient truqués, où tout le monde était acheté et tout le monde savait qu'il était acheté, etc. Mais c'était une manière, tout en gardant la face, d'intégrer socialement ces familles d'origine juive. Il tombe sur ce procès, les notes du procès, où on sait tout. Hein, où que le grand-père, il a été réconcilié par l'acquisition, quand, comment, tout ça, que tout Avila est au courant de l'histoire, que tous les témoins sont achetés, il y en a un qui déclare que oui, effectivement, il a été payé pour déclarer que les frères sont d'origine noble, mais c'est authentique, hein, c'est surréaliste, mais c'est authentique. Voilà. Et malgré ça, il y a eu que oui, effectivement, la sentence a été qu'ils étaient nobles, mais qu'ils avaient le droit de le revendiquer que sur la ville d'Avila, ce qui est complètement hallucinant, parce que soit on est noble, soit on l'est pas, quoi. Bon, ce qui montre bien. Et c'était donc cousu de fil blanc. Ça a fait, il a eu juste le temps, il a publié un article, et mystérieusement, le manuscrit a disparu de la circulation. Ce qui fait que personne n'a pu vérifier, parce que le manuscrit, on était dans l'Espagne de Franco, hein, qui prenait Sainte Thérèse vraiment comme le modèle, etc. Donc ça fait, bon, mais comme on n'a pas pu vérifier, du coup, il y en a qui disaient que oui, d'autres qui disaient que non, enfin voilà. Et puis, le manuscrit a apparu aussi miraculeusement et mystérieusement en 1983, donc après le centenaire, qu'il avait disparu en 1947. Et donc, évidemment, aussitôt, bah, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a publié pour qu'il ne redisparaisse pas une prochaine fois. Donc, le carme historien assez connu dans le milieu, Théophanes et Rideau, l'a publié. Il est sorti en 1985 ou 1986. À mon avis, il y a de fortes chances qu'il soit dans la bibliothèque du Studium, peut-être en bas. Vous avez oublié. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il a été absolument acquis, là, il y a un document absolument irréfutable, que les origines juives de Sainte Thérèse. Hein. Et a posteriori, ça a éclairé un certain nombre d'aspects, hein, de l'œuvre de Sainte Thérèse, de réactions, etc., qu'on a vu, qu'on pouvait pas deviner, mais que là, c'est bon. Après, pour répondre au deuxième volet de la question, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'oraison, chez les laïcs a démarré dans ces milieux conversos. Donc ça, c'est vraiment attesté par des documents, etc. Et alors, il a fallu comment comprendre que l'oraison était particulièrement présente, et c'était les premiers milieux laïcs qui se sont ouverts à ça. Alors, ça, c'est ce que disent les historiens. Effectivement, ça peut paraître un peu curieux. Je partage un peu ton interrogation, pour être honnête, Pierre. Mais c'est de dire que, eux, ils étaient... c'est pas des athées qui se sont convertis de force au christianisme. Hein. C'est des hommes religieux, hein, vraiment religieux, qui cherchaient Dieu. Hein. Et que donc, pour arriver à passer la pilule... des cérémonies auxquelles il fallait qu'ils assistent, etc., ils se sont centrés sur l'oraison où ils pouvaient rencontrer Dieu de manière un peu expérientielle. Quoi. Donc ça, c'est l'explication que donne... Pour expliquer un fait qui est réel, documenté, c'est que c'est dans ces milieux-là que l'oraison a pris d'abord.
Ce qu'on peut dire autrement, c'est que leur intériorité profonde était le dernier lieu de liberté religieuse qu'ils avaient. Et que par conséquent, c'est dans ce lieu-là qu'ils ont investi toutes leurs énergies, leurs forces, leur désir de retrouver Dieu. C'est en soi, on comprend le lien.
Alors, j'ai une question d'ordre spirituel et pastoral. Et sur le thème de l'enfer et du ciel. Alors, c'est dommage que le frère soit parti, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on disait que Sainte Thérèse était marquée par ces âmes découvertes dans le Nouveau Monde qui pouvaient se damner parce qu'elles ne connaissaient pas le Christ. Enfin, elle saisissait l'urgence du problème. Et on voyait aussi dans le film d'hier à quel point elle avait compris que sa vie était elle était sur Terre pour se déterminer pour le ciel, quoi, finalement. Et donc il y a j'ai l'impression que c'est une époque où on a d'une certaine manière on a peur de l'enfer et d'une autre manière on saisit qu'il faut se déterminer pour le ciel. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus du tout une question qu'on se pose. Et je pensais notamment à une session du pape François qui disait c'est pas la même chose de vivre avec Jésus et de ne pas vivre avec Jésus. Sous-entendu finalement. Est-ce que la spiritualité et la vie chrétienne et la vie de la grâce, c'est un plus-value de la vie? C'est mieux de vivre avec ça que de pas le connaître. Mais finalement, il y a plus vraiment cette question de est-ce que je vise le ciel et je m'engage pour le ciel et j'annonce le Christ pour que les autres puissent viser le ciel aussi et ne pas, s'ils ne visent pas le ciel, du coup, aller en enfer. Voilà, c'est cette question qui est plus là. Et du coup, comment... je ne sais pas trop comment on est arrivé aujourd'hui à complètement élucider cette question d'après la mort. Et qu'est-ce que Thérèse aurait à dire, du coup, pour notre époque à ce sujet? Et pour nous qui sommes des futurs pasteurs à ce sujet?
Ta question est très importante. Je t'avoue, moi, je m'accompagne depuis pas mal de temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Europe, on va dire dans les années 50-60, il y a eu une... il faudrait calculer plus large, mais... Il y a une rupture dans la place des fins dernières dans la vie du chrétien. Que grosso modo, pour faire simple, jusqu'à la moitié du XXe siècle, les choses sont très simples, très claires, alors peut-être trop simples, trop claires, hein, dans la tête des gens, mais hors de l'Église, pas de salut, ça veut dire, mais vraiment pas de salut. Et l'enfer, c'est l'enfer. Enfin, il y a beaucoup de monde, quoi. Tous ceux qui, d'abord, ne sont pas chrétiens, et à la limite, même, ne sont pas catholiques. Quoi. Donc, c'est sûr que d'abord, c'est simple. Ça a le mérite d'être simple. Ça a aussi un impact fort sur le mouvement missionnaire. Si tu vis avec cette conviction que ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ sont perdus, mais vraiment, tu as envie de partir, de traverser les océans pour les sortir de ça. Alors, il y a un peu de ça, je pense, chez Thérèse. Quelle est sa présentation, si tu veux, des fins dernières et du terme vers lequel vont les vies? Peut-être c'est assez proche de ça. Il y a alors, en plus, chez elle, une vision de l'enfer qui a été déterminante dans sa vie. Elle a eu une vision de l'enfer et de la place qu'elle aurait méritée si elle n'avait pas été fidèle à la grâce.
Pour elle, ça, ça a été une vision extrêmement forte. Je ne sais pas si on en a parlé jusqu'à présent, mais dans sa vie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pointer, tu vois. C'est cette vision de l'enfer. Je crois que vous l'avez sur la chronologie, enfin une des chronologies qu'on vous a passées. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, bon, le Concile Vatican II, par exemple, nous oblige, si tu veux, d'écarter cette vision un peu simpliste des choses. Mais c'est vrai que le risque, c'est de perdre un peu du zèle missionnaire en disant, ben, de toute façon, Dieu sauve tout le monde, donc à quoi bon ? Enfin, je dis ça comme tentation, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'au long des siècles, la perspective possible de se perdre à tout jamais a été pour beaucoup de nos prédécesseurs, hein, ceux qui nous ont précédés, un stimulant dans les vies. Stimulant pour certaines conversions, un stimulant pour aussi des progrès, pour des conversions intérieures. Donc c'est pour moi, ça reste une question, et a fortiori au plan pastoral, comment parler des fins dernières sans donner l'impression de revenir au discours, si tu veux, des années 30-40, et en même temps, comment intégrer cette réalité de la vie chrétienne dans aussi l'annonce catéchétique et aussi dans l'homilétique, par exemple.
Je pense que le problème du salut et du salut des âmes était vraiment un problème qui préoccupait beaucoup Thérèse. Je cherchais tout à l'heure, je ne sais plus où c'est, où elle dit « Je donnerais 1000 vies pour sauver une seule âme ».
C'est au
cœur de ça. Oui, il me semble que c'est au cœur, oui, de son enseignement.
Cette vision de l'enfer de Thérèse, c'est ce qui va déterminer la fondation de Saint-Joseph. Et ce que je trouve ce qui est très intéressant, c'est que l'enfer, c'est quoi ? C'est le non-lieu où il y a Dieu n'y est pas. Et qu'est-ce qu'elle va fonder ? Un lieu, comme elle dit, un colombier, où elle va pouvoir vivre avec Jésus. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement missionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous dit Thérèse, qui va être très clair, c'est que sans Dieu, et la vocation de Thérèse, c'est de dire, je vais faire un lieu où il y a Dieu, où vivre avec Dieu et montrer comment l'amitié, comment la vie ensemble, vivre avec Dieu, comment une société peut tenir dans ce lieu justement où Dieu est présent. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a cette vision de l'enfer, du lieu où Dieu est absent, où moi je suis présent, mais Dieu n'est pas, elle va fonder un lieu où Dieu est là. Et où on peut vivre ensemble. Je ne sais pas si c'est...
Ce que tu as très bien dit, tu vois, Louis-Marie, c'est que le risque pour nous aujourd'hui, c'est Dieu, c'est une plus-value. Connaître le Christ, c'est une plus-value. C'est mieux. Alors là, on est tous convaincus de ça. Mais pour Thérèse et les hommes de son temps, ce n'est pas une question de plus-value. C'est une question de... Il n'y a plus rien. C'est la non-vie. C'est un petit peu la question radicale du Deutéronome, choisis la vie ou la mort. C'est la mort sans Dieu, plus rien.
Pour essayer de donner un élément de réponse au moins à ta deuxième question d'ordre plus pastoral, qu'est-ce que Thérèse apporte aujourd'hui ? Bon, en jouant sur le mot, hein, on peut parler d'enfer comme un enfermement. Et quand elle a eu la vision de l'enfer, elle avait très fortement cette sensation-là d'être coincée. Et aujourd'hui, peut-être, c'est l'enfermement sur soi-même. Et je pense que Thérèse, elle nous montre que l'intériorité, en fait, elle est habitée. Et donc, le fait de se tourner vers le sujet, c'est se tourner vers le sujet, mais en même temps, c'est se tourner vers quelqu'un d'autre, vers Dieu. Et quelqu'un qui est bon et qui aime, et parce qu'il est à l'origine de mon être et qu'il le soutient. Donc peut-être que là, il y a une piste vers une intériorité qui est que l'on peut apprivoiser, alors qu'elle peut peut-être faire peur, angoisser le mystère de ma propre personne. Et Thérèse nous montre comment nous apprivoiser cette intériorité, comment y entrer. Et puis le mot, l'adverbe qui vient aussi, c'est « peu à peu ». Et je pense qu'aujourd'hui, cette dimension de la temporalité, quelque chose qui se déroule peu à peu, c'est une bonne nouvelle, que la croissance prend du temps, alors qu'on vit dans un monde où tout doit être immédiat, connexion à haut débit. Il y a cette connexion à haut débit dans le contact avec celui qui habite là à l'intérieur, mais pour le vivre et le réaliser, ça prend du temps. Et moi, je trouve que c'est, il y a d'autres éléments sûrement, mais enfin, c'est les deux qui m'apparaissent en premier dans ce que Thérèse apporte. Donc, cette intériorité qui est, que je peux domestiquer parce que quelqu'un de bon y habite. Et puis, le fait que j'ai besoin de temps pour tout, et en particulier pour entrer là.
Alors, on peut peut-être clore la session parce qu'on aura encore vendredi la même occasion. Donc, il y a encore une table ronde vendredi après-midi. Voilà, donc on ne va pas abuser de votre attention.